11h sur Canal FM.
Beaucoup de choses ont évolué, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qu'est-ce qu'il y a de plus riche pour l'homme, l'être humain que la liberté? Tout ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons l'accent sur la couleur du bon miel.
Les gens se posent cette question. Tous les services qui accueillent,
on ne voit pas circuler les bêtes comme ça.
Ils sont censés défendre la veuve et l'orphelin.
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc, du coup, je pense véritablement que
il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Nous sommes toujours très heureux quand nous savons que vous êtes nombreux à nous suivre alors sur la 93.5, surtout quand il sonne 11h sur La Nouvelle Génération. Vous savez que c'est l'émission Club de la Presse qui démarre. Nous sommes aujourd'hui au mardi 17 septembre 2024, 11h sur votre radio. Et vous comprenez que nous démarrons l'émission Club de la Presse. C'est le deuxième numéro pour le compte à l'heure de cette semaine. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas était aussi d'Atili assure la mise en œuvre. Gérald Akoutsa est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Merci fraternel à vous tous qui nous suivez partout au Togo, puisque déjà à 11h, vous nous suivez avec cette émission partout au Togo, grâce à nos radios partenaires, Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpame, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou, et puis Radio Courtoisie à Dapao. C'est également un privilège pour nous tous alors de savoir que vous nous suivez partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook, mais également nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse et le débat de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi déjà en studio, c'est Eric Parkoudjo-Josson. Eric, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour grand frère Assiobor. Et bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM.
J'espère que tu as bien démarré la semaine.
Oui, ça va, mais là je voudrais... placer un petit mot par rapport à des agents de sécurité, des forces de l'ordre qui sont au carrefour 3K. Tout à l'heure, il s'est passé un incident et il y a eu une course-poursuite derrière un Zénidien qui ne voulait pas obtempérer. Et donc, ça a causé une petite bousculade. Et nous, on a lancé. On a lancé, et là, le temps de réaliser que le feu était déjà orange, c'était déjà trop tard. Si on s'arrêtait, il peut y avoir des accidents par derrière. Donc, j'ai continué. Ils m'ont interpellé. Et j'ai dit, mais écoutez, c'est par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure. Mais l'agent n'a pas voulu m'écouter. Tout ce que je disais, lui, il a écrit la contravention, il a déchiré, il m'a remis. Bon, c'est pas grave, on va aller à leur poste pour récupérer. Non, lui, il n'a pas suivi. C'est que derrière, quand ses patrons, je ne sais pas qui, m'ont vu en train de partir, ils ont commencé par siffler. C'est là, lui, il s'est placé devant moi, je me suis arrêté, il a demandé les pièces du véhicule, je lui ai remis, et puis il a mis la contravention. Mais je pense que quand même, nous sommes des citoyens. Lorsqu'il y a une situation, il faut juste qu'ils nous écoutent. Parce que nous-mêmes, nous demandons aux gens d'obtempérer, nous demandons aux gens de respecter les feux tricolores. Et par conséquent, on ne peut pas se permettre de passer quand les feux sont rouges. Et donc là, je dis tout simplement, il fait son travail, on lui a demandé un service, mais il faudrait qu'il mette un peu de jugeote lui aussi, en tant qu'agent de sécurité ou force de l'ordre, pour écouter quand même les citoyens. On ne peut pas, parce qu'on t'a dit d'incensif, il faut mettre la contravention, il faut le faire, il faut un peu réfléchir, c'est ce que je veux dire. Je sais que si celui-là était un ancien, il allait comprendre, et la scène, c'est tout le monde qui a vu la scène, hein, mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu m'écouter. Lui, tout ce qu'il regardait, c'est écrire. Bon, voilà, quoi, c'est pas une bonne attitude, hein, même si le citoyen est en erreur, il faut quand même l'écouter.
Tout à fait, c'est très d'agir. Important de l'écouter et avant d'agir, et ça permet, puisque les gens peuvent alors se trouver dans de telles situations, donc il est très important quand même qu'on écoute aussi les citoyens.
Mais j'avoue que hier nuit, vers 01, je passais au niveau de Carrefour Novici, mais il y a deux agents qui étaient sur moto et qui ont failli créer une situation d'accident là, parce que le feu était rouge, et on a même vu le temps, il restait encore 30 ou 40 secondes, mais il voulait passer, l'autre qui avait le feu vert, il passait de l'autre côté, mais ça a failli créer un truc là, on a tous crié quoi, que mais c'est des forces de l'ordre, ça arrive. Mais il faut qu'ils écoutent vraiment
les citoyens. C'est très important. Il faut qu'ils écoutent aussi les citoyens. Puisqu'il est très important, même d'ailleurs, qu'on ait cette convivialité entre forces de l'ordre et citoyens pour que, du moins, le travail aille mieux. Voilà. C'est très important. Merci beaucoup, Eric, hein, pour cette interpellation. Et je pense quand même que c'est rentré dans les oreilles alors de qui de droit. À travers cette émission. Vous l'avez salué tout de suite, puisque nous sommes au mardi. Claude Assiabotis est là. Claude, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour.
J'espère que tu vas bien.
Je peux tenir.
Vous pouvez tenir, vous tenez déjà.
Non, je peux tenir.
Ça va aller. Alors, on sait que c'est la rentrée des classes au Togo depuis hier, le 16 septembre. Alors, c'est vrai, nous avons parlé même d'ailleurs de la littérature dans nos classes. Et il y a déjà combien d'années la littérature togolaise a fait sa rentrée dans les classes togolaises?
Si mes souvenirs sont bons, parce qu'il peut avoir un autre de là. Je ne sais pas si on a mis une fois David Anami ou Couchereau au programme, mais dans les années 80, comme ça, 70-80, c'est à Gotazissou que j'ai enseigné à mes élèves. Avec son nom fétiche, on joue la comédie qui est même primée à l'extérieur. C'est un véritable chef-d'œuvre. Un véritable chef-d'œuvre. Ensuite, il a eu Emmanuel Dobé,
oui.
Et avec La Victime. Ça, c'est une œuvre acceptable. Hein, acceptable. Je ne dirais pas que c'est un chef-d'œuvre. Mais là, il y a eu une anomalie. Il y a eu une anomalie par la durée. Hein, lorsque le moment est arrivé, pendant les 4 ou 5 ans que les œuvres dureront, on doit changer. Mais il y a eu une panne dans le temps, on n'a pas compris. Ça a traîné. Traîné et ça, bon, lui, ça lui a profité. Mais ça fait que beaucoup de jeunes ont connu cette œuvre. Mais ce que je veux signaler à ce niveau, nous, professeurs, on a regretté un peu parce que ça agit sur leur goût littéraire. Hein, ils prenaient ça pour un chef-d'œuvre. Et beaucoup qui sont devenus écrivains s'en ressentent. Hein, il suffit d'écrire une petite histoire. Ils croient qu'ils se mesurent par rapport à Emmanuel Dobé.
Non.
Alors vous voyez, il faut, lorsque la barre est très haute, alors on se prend plus au sérieux. Donc c'est ça que je peux dire. Donc il y a eu Agbota, il y a eu Emmanuel Dobé, et voilà. Et
d'accord.
Donc après. À partir de, ça fait 5 ans, 6, 7 ans, je crois, 6 ans maintenant, ou 5 ans, c'est devenu systématique. Ils ont, et c'est une bonne chose, l'enseignement togolais accueille régulièrement chaque année des œuvres de la littérature togolaise.
D'accord. Alors, c'est vrai, nous savons qu'il y a un moment, nous attendons parler alors des auteurs togolais qui brillent à l'extérieur en recevant des prix littéraires, mais nos élèves ne les connaissent pas selon nos expériences, bien sûr. Alors, n'est-ce pas la belle occasion là, pour vous, ou bien pour ces élèves surtout, de leur faire découvrir surtout ces auteurs?
Oui, c'est une très bonne question, une question que les gens avertis en littérature se posent, parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent à l'extérieur. Mais il y a des problèmes. C'est que ces livres coûtent cher. 20 euros, qui peut acheter au Togo? Les livres à l'intérieur qui sont programmés, même à 2000, c'est seulement à Lomé qu'on achète. À l'intérieur du pays, c'est des problèmes. Et c'est ça le problème de coût. Et parfois aussi, ces œuvres sont reformatées au goût surtout du public européen. C'est au goût du public européen. Mais ce n'est pas ça, le problème. Puisque la littérature universelle, il pose des problèmes d'ordre universel. Même africain, mais d'ordre universel. C'est des œuvres qui ont une forte qualité littéraire. Ça, n'en doutons pas. On doit vraiment souhaiter que ces œuvres soient là. Mais voilà les grands handicaps. Peut-être qu'on y réfléchit et ça arrivera un jour.
Alors, je peux intervenir par rapport surtout au coût des œuvres littéraires chez nous. Et vous savez qu'en imprimerie, lorsque vous imprimez à grande échelle, le coût tout de suite diminue. Or, les œuvres littéraires de chez nous, sont imprimés en petite quantité. Et là, je crois qu'il y a eu une discussion avec les éditeurs même pour voir comment on peut essayer de réduire le coût de production des livres. Vous avez le professeur Robert Doucet qui, à la sortie de son dernier livre, Le Book, sur le campus, il a vendu ce livre-là à 500 francs ou 1000 francs. Tout simplement, il a voulu faire la promotion. Ça veut dire que lui-même, il a subventionné son bouquin, son œuvre. Et donc, ce n'est pas évident pour tout le monde. Ce qui fait que les livres de chez nous coûtent extrêmement cher. Quand vous comparez à ce qui se passe dans les autres pays de la sous-région, en Côte d'Ivoire, au Bénin, la population, elle est plus importante. Et vous voyez, le public cible aussi joue énormément sur la quantité qu'on produit. Et c'est ça qui fait que, vraiment, c'est un véritable souci. Donc, comme vous l'aviez dit au cours d'une autre émission, une émission précédente, c'est qu'il faut qu'on subventionne. Qu'on subventionne les œuvres littéraires.
D'accord, merci beaucoup Eric. Claude, oui, mais nous allons nous intéresser maintenant à ces livres qui sont aujourd'hui choisis pour être au programme dans le cursus scolaire. Alors, quels sont les critères de choix pour que ces œuvres alors soient au programme?
Là, je serai très critique et je risque même d'être acide.
Il n'y a pas de souci, on va y aller.
À Serbe.
Je vais citer un des objectifs de la réforme même du français dans nos classes, et qu'on appelle le fameux
APC,
qui n'est pas une mauvaise chose. Et je cite cet objectif, on dit, à la fin du cycle, du deuxième cycle, du secondaire, l'élève doit connaître plus finement les chefs-d'œuvre de la langue. Ça veut dire la langue française. Les chefs-d'œuvre, je pèse le mot, connaître plus finement. Mais au constat, j'ai des problèmes. c'est des problèmes. Lorsqu'on prend les œuvres de la littérature togolaise qu'on est en train d'introduire au programme, où sont les chefs-d'œuvre? Oui, je peux vous citer et 3, 4, 5, 6 chefs-d'œuvre togolais et je peux leur demander comment ils ont pu oublier ça. Moi, je ne dis pas que moi j'écris des chefs-d'œuvre, laissez-moi de côté. Peut-être j'écris les œuvres les plus médiocres, mais j'ai des œuvres évidentes qui sont des chefs-d'œuvre togolais que je ne retrouve pas.
Et c'est un regard puis, objectif que vous
portez. Non, bien sûr, je vais leur démontrer ça, et ils le savent. Si vous nous appelez dans un débat pendant toutes 2 heures, on peut discuter de ça, et il ne peut pas sortir vivant de ce débat.
Oh là là, tu ne vas quand même pas les tuer.
Ça, je peux le dire.
Ça maintient la
tumeur. Oui, oui. Bon, tu sais, excusez-moi, j'ai un style hyperbolique.
Ouais, ça c'est vrai, on se connaît.
C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et même le livre de Monsieur Baria, j'ai dû aller protester au nom de mon édition avant que l'on inscrive le programme. Heureusement que dans la hiérarchie, j'ai trouvé des oreilles attentives de quelqu'un qui est plus technique que politique. C'est ça qui a fait qu'on a inscrit au programme. Alors que c'est une des grandes œuvres que j'ai suivi de sa naissance jusqu'à son aboutissement. Et eux, ils ne le savent pas. Et ils ne le savent pas.
En tout cas, vous parlez de qui?
Qui?
Quand vous parlez de eux, vous parlez de qui?
Non, je ne veux pas donner des noms.
D'accord.
D'abord, c'est une nébuleuse.
Tout à fait.
Parce qu'on peut y arriver, je vous le dirai.
Mais est-ce que ça veut dire que ça se fait par affinité
Oui, c'est ce que je soupçonne. Mais laisse-moi développer, aller au bout de ma première question que vous m'avez posée. Et si un étranger arrive au Togo, aujourd'hui, demande, donnez-moi les livres chez nous de la littérature togolaise, c'est le répertoire là qui vous montrait. Bon, je ne veux pas être, je ne veux pas abuser, je vais vous dire quelque chose. On peut faire 3 observations. Dans ce répertoire, il y a du bon. Il y a des œuvres qui sont valables, des auteurs respectables, ça c'est vrai. Mais il y a certaines ou assez d'œuvres qui sont trop ordinaires. Et eux n'ont pas de chef-d'œuvre et de comprendre la littérature finement. Je ne comprends pas qu'on puisse donner très facilement place à ces œuvres-là trop ordinaires, que je trouve trop ordinaires parce que. C'est des œuvres qui ont des péchés littéraires, ça je peux vous le dire. Qui comporte des péchés littéraires? Je peux démontrer, je ne vais pas frustrer, je ne vais pas appeler de nom. Il y a la littérature est subjective, mais il y a des péchés qu'on ne connaît pas, qu'on ne commet pas.
Comme pas.
Comme quoi?
Oui.
Comme quoi?
Oui, non, je ne veux pas le dire.
D'accord.
Je ne veux pas le dire. Et puis, la littérature, ce n'est pas du reportage.
On est dans la pédagogie, il faut nous dire un peu.
Non, d'une façon générale, vous êtes très avertis, des hommes très avertis. Vous allez d'ailleurs, je vous dis que en cette matière, je vous donne la matière à aller creuser. C'est vous qui devez nous accompagner pour aller voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là.
Okay.
Hein, vous voyez? Et c'est pas du reportage, la littérature. Vous voyez des gens qui n'ont pas un véritable projet littéraire. En littérature, c'est d'abord un projet. Et puis, il y a des œuvres par rapport au niveau mal placé. Je préfère donner une œuvre étrangère. Par exemple, là où on a placé. Moi, à mon goût, ça, on peut être subjectif. Là où on a placé, par exemple, la Pédiama, ben, il ne peut pas être vendu. Parce que les gens ne peuvent pas comprendre. Mais ça, je dis, qu'est-ce qui se passe? Mais ça, c'est ce que je pense. Mais j'ai entendu aussi des professeurs, ils murmurent. Vous savez que les Togolais murmurent. Hein? Et vous, si vous voulez comprendre, il faut regarder ses yeux et ils murmurent. Alors, ils disent qu'il y a des œuvres, pas seulement au Togo, il y a même une là, elle dressera, qui expose le sexe. Ah, vous voyez ça? Moi, j'ai lu et ils ont raison. Hein? Et puis, plus grave, et ils ont raison, les écrivains choisis sont pour la plupart d'un seul bord politique. Ça, on peut le démontrer.
La politique s'invite aussi dans la
littérature. Oui, bien sûr, ils se plaignent qu'on est en train de politiser la littérature. La fiction, c'est dommage. La littérature, c'est seulement la qualité.
D'accord.
C'est ça.
D'accord.
Et je peux finir. Je suis très abondant là.
Allez-y.
Et au niveau. D'abord, lorsqu'on parle de livres, c'est un marché. C'est un marché. On ne va pas s'en cacher. Et il faut savoir redistribuer les richesses nationales à ce niveau. Hein? Et je présume que il y a même il peut y avoir même des conflits entre éditeurs et écrivains. Parce que il y a des écrivains qui éditent eux-mêmes leurs œuvres. Les œuvres doivent passer par des éditions.
Évidemment.
Évidemment, les œuvres doivent passer par des éditions.
Évidemment.
Et surtout les éditions qui payent leurs impôts. C'est ça. Et on ne crée pas rapidement une édition parce qu'on a son oncle, on peut placer son œuvre, etc. etc. Hein? Et puis, pire, un seul écrivain est placé à plusieurs niveaux. Les écrivains n'ont pas de droit. Alors qu'il y a d'autres choses. Hein? On place un en quatrième, on le retrouve en premier, par exemple. Ça, c'est quoi ça? Alors qu'il y a d'autres écrivains qui ont du talent. D'ailleurs, cette émission, on va y aboutir. Je vous ai promis que dans mes chroniques, je vais t'exposer les écrivains, les chefs-d'œuvre de la littérature togolaise.
Tout à fait.
Voilà, à peu près, j'ai été long, mais ça vaut la peine.
Sur ce point, vous êtes écrivain, vous avez été longtemps aussi professeur de français, vous êtes aussi conseiller littéraire d'édition. Alors, quels doivent être, selon vous, les bons critères?
Les bons critères, je ne peux pas dire qu'ils ne le connaissent pas. Hein. D'abord aussi, moi, j'ai une idée là-dessus. Il faut d'abord un appel au texte à travers les éditeurs. Parce qu'il faut présélectionner. Les éditeurs connaissent leurs bons écrivains. Hein? Il faut un appel au texte. Hein? Et c'est très important. C'est dans ce genre de travail, et je vais vous dire une chose, il faut des spécialistes pour sélectionner les textes, les lire, pour évaluer. Il faut des professeurs, des enseignants dessus. Il faut ceux qui doivent étudier les œuvres dans les œuvres, choisir les meilleurs parmi eux. Il faut les inspecteurs, il faut les professeurs d'université. Mais il faut surtout des experts. Ce n'est pas parce que tu es inspecteur. Lui, l'inspecteur, c'est pour la pédagogie, la réception. Mm. Pas parce que tu es professeur d'université, et on se signe que tu es expert. Il faut des experts, de vrais experts. Et on a la chance aujourd'hui que au Togo, il y en a qui sont encore en vie, hein, qui sont à l'extérieur, même à l'intérieur, qui sont en vie, et qu'on peut convoquer pour faire ce travail. Ils vont beaucoup nous aider, ça va beaucoup nous aider. Hein? Alors, et moi je crois que au lieu d'indiquer des œuvres pour le programme, on aurait dû commencer par des manuels. Et là, ça permet de ratisser large, de ratisser très large. Hein? Et comme ça, on a une variété de textes. Des textes de l'intérieur, alliés aux textes de l'extérieur. Vous voyez ça? Des écrivains déjà décédés, le passé par rapport aux écrivains vivants. Parce qu'il y a des écrivains qui sont décédés, nous ne sommes pas égoïstes. Hein? Qui ont laissé leur nom. Hein? Et on doit penser aussi à eux. Il y a une qui est décédée la toute dernière fois. Eh bien, c'est un monstre de la littérature togolaise. Mais je ne la vois pas. Dans les œuvres, ça c'est quoi ça? Hein? Et on ne peut pas l'oublier si tôt. Hein? Et j'ai remarqué que la poésie est sacrifiée.
Ah bon?
On a sacrifié la poésie dans le choix des œuvres. Alors que nous avons des poètes, ils se sentiront frustrés. Il faut donner à tout le monde. Alors on aurait dû commencer par des manuels de texte. Et ces manuels auraient d'ailleurs permis. Les tests seront permis d'appliquer le fameux HPC.
Alors,
Ce n'est pas une question.
Par rapport à ce que tu viens de dire, oui. qu'il faut commencer par les manuels, oui. je viens de lire un truc ce matin
oui.
qui me parle d'une politique oui. de manuel oui. dans l'enseignement.
Oui, ben,
je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'ai pas, totalement lu le test,
oui, oui, oui.
mais je pense qu'il faut...
Oui, ils font ça en maths, ils font ça en lecture.
Non, c'est en... Voilà.
Mais ils peuvent aussi en arriver là,
okay.
Par des manuels de français. Mmh. Mais il fallait commencer là. Là, ça permet de ratisser large. De ratisser large, et puis ça permet aux élèves de découvrir rapidement la littérature togolaise. Je vous ai déjà dit que, moi, je suis allé au lycée de Vaughan, par exemple. J'ai dû offrir quelques exemplaires. Il n'a pas un seul livre. Programme, il ne peut pas acheter. Mais si c'est des manuels, des textes, les élèves peuvent rapidement découvrir et les textes souvent sélectionnés, les morceaux choisis sont souvent très beaux.
D'accord.
Et voilà. Et puis, j'allais terminer.
Mmh.
Et parallèlement à ces textes-là, on peut proposer les vrais chefs d'œuvre de la littérature togolaise à la lecture intégrale, avec un accompagnement des critiques. Ah, vous suivez?
Mmh.
Voilà. Lorsque c'est des chefs-d'œuvre, parce que la lecture intégrale, les élèves qui n'arrivent pas à lire, tout de suite, vous leur proposez des romans, c'est pas la peine. Ils découvrent la littérature d'abord à travers des morceaux choisis, bien articulés, de très beaux textes. Mmh. Alors, ils savent que vraiment, il y a des écrivains togolais.
Mmh.
Et lorsqu'on leur proposera d'avaler des œuvres entières, ils seront plus encouragés.
Je me souviens quand vous étiez au collège avec les tests activités où il y a eu une compilation même d'ailleurs de ces tests.
C'est ça. Mmh. Et bien, c'est ça.
Mmh.
Voilà. Mais nous n'avons pas passé toujours le temps à faire du saupoudrage. Hein. Mmh. C'est ça que je remarque. Dommage hein, pour le Togo.
D'accord. Ok, merci beaucoup, Claude Assiobot.
Non, je vais aussi dans cette émission.
Excusez-moi. Vous savez, on a déjà pris assez de temps, Eric.
Mais c'est jour de culture.
Oui, mais je ne refuse pas.
Alors, tu vas revenir sur ce que j'ai fait.
Non, mais on va pas.
Parce que là, c'est une question qui va directement à Claude, parce que dans ses présentations, dans son enseignement, il avait dit la dernière fois que le roman est une fiction. Alors, je viens de découvrir le samedi passé qu'il y a le confrère Christian Eboulot, un Camerounais, qui a l'habitude de venir au Togo. Et il a sorti un livre qui s'appelle « Le Testament de Charles ». Et là, on me dit, lui-même, il a expliqué sur TV5 Monde qu'il a mis 14 ans à suivre les traces de ce capitaine gabonais, Charles, comment il s'appelle, Ntchoé, qui l'a suivi pendant 14 ans, hein, et il a retracé son histoire. Mais là, on me parle de roman. Quand j'ai vu ça, la sortie du roman de Christian Eboulot, j'ai tiqué un peu en me disant comment il a suivi les traces de quelqu'un qui l'a rapporté. Et on me parle de roman.
Oui, je vous l'ai déjà dit. J'ai déjà répondu à cette question.
Mm-hmm.
C'est que c'est difficile de recueillir la réalité brute et de tracer telle qu'elle. C'est difficile. Vous ne pouvez pas. Le roman sera mauvais. On choisit, on remplit cohérent, on court quelque part, on ramasse quelque part quelque chose qui peut se passer dans la réalité, qui est plus long, on rétracte quelque chose qui est plus court, on met en relief. En le faisant déjà, on est en train de faire de la fiction.
Mmh.
Voilà.
D'accord,
merci.
Ok, je pense que vous êtes satisfait. Claude, merci d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir hein, de vous avoir dans cette émission. Je rappelle que vous êtes écrivain, critique littéraire, aussi conseiller littéraire d'édition. Merci d'être passé dans cette émission. Alors, sans transition, puisque nous parlions dans cette chronique de la rentrée scolaire, et Eric, parlons-en, bien sûr, parlons de cette rentrée scolaire qui a démarré hier. Et vous écrivez à la une de votre journal ce matin, rentrée scolaire 2024-2025, la grande mobilisation. Alors, finalement, on a observé une grande mobilisation au cours de cette rentrée, c'est ça?
Oui. cette rentrée a été effectivement très spéciale hein, de mon point de vue. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons vu déjà que à la veille de cette rentrée, il y a eu beaucoup de réunions. Et surtout, ce qui nous a le plus touché, c'est cette réunion de l'Association des parents d'élèves avec les ministères concernés, les syndicats d'enseignants. C'est-à-dire que tout le monde hein, qui est impliqué dans l'enseignement, dans l'éducation dans notre pays, ils ont eu à faire une réunion pour mettre la rentrée 2024-2025 sur les rails. Et tout de suite après, ce qu'on a pu remarquer hier, c'est qu'il y a un tweet déjà du chef de l'État lui-même qui a salué la rentrée, qui a souhaité une bonne rentrée aux élèves et qui leur a donné de petits conseils à travers une phrase, d'être vraiment assidu, d'être travailleurs, il les a encouragés en quelque sorte pour mieux affronter la rentrée là. Ensuite, il y a eu ce déploiement hein, de la majorité des ministres sur le terrain, ce qui n'a jamais été fait. Qu'est-ce qu'on voyait les années précédentes? C'est le ministre de l'enseignement et son collègue, le ministère délégué et tout ça, qu'on voyait sur le terrain en train de parcourir les écoles et tout ça. Mais hier, on a remarqué que de nommer jusqu'à 5 ans, il y a eu des ministres et chacun dans sa région, dans sa préfecture, mais il y a eu toute une mobilisation. Le Premier ministre, justement, j'allais le dire, le Premier ministre était également avec le ministre de l'enseignement primaire et secondaire. J'ai vu la ministre du développement à la base, Accara. J'ai vu la ministre des Affaires sociales, Anotien. J'ai vu que tout le monde, finalement, s'est mobilisé pour aller regarder de près comment cette rentrée-là s'effectue. Et je crois que c'est une mobilisation totale. Et je me suis demandé si ce n'est pas parce que les résultats de l'année dernière aux différents examens ont été catastrophiques, que finalement, on a vu qu'il faut que tout le monde se déploie sur le terrain quand même pour que cette rentrée-là soit meilleure par rapport à ce qu'on avait vu les années précédentes.
D'accord, nous sommes rejoints par Adam Adronou. Adam, bonjour. J'espère que tu vas bien.
Oui, ça va. Ça va.
D'accord. Alors, nous parlons de la rentrée scolaire, bien sûr. Vous avez aussi titré hein, Vision d'Afrique. Vous avez titré sur le sujet. Vous écrivez Togo, une rentrée 2024-2025 sous le signe de la modernisation et de l'engagement.
Oui, bien évidemment. C'est vrai. Eric le disait tantôt. Et lorsque vous voyez cette mobilisation grandiose, cela s'ajuste non seulement au niveau exécutif, vous avez aussi constaté que le ministre de l'administration territoriale avait sorti un communiqué appelant les maires à se mobiliser aux côtés des gouvernants pour que cette rentrée-là soit une rentrée réussie. Et je pense que c'est désormais chose faite, on peut le dire, quand bien même que nous savons que tous les acteurs impliqués ou surtout tous les parents n'ont pas vraiment les moyens. Lorsque vous prenez, on parle des matériels didactiques, vous convenez avec moi que lorsqu'on parle de la rentrée, ce n'est pas forcément, les cahiers qui causent problème. Actuellement, ce sont justement les livres qui nous causent des grands soucis. Lorsque vous prenez, en tout cas, toute sommation faite en ce qui concerne le pécuniaire à sortie, je ne pense pas que les cahiers occupent les 10%, c'est réellement donc les livres. Voilà pourquoi je dis que cette rentrée, au regard de la mobilisation. Maintenant, revenant sur les résultats dont parlait Tantéry, je ne pense pas qu'on peut pour autant dire que les résultats ont été autant catastrophiques. C'est vrai que lorsque vous prenez l'approche du gouvernement aujourd'hui, c'est réellement donner une compétence. Je pense que notre ami qui a fait la chronique tout à l'heure le disait, donner la réelle compétence aux enfants. Ce n'est pas parce que, vous savez, quelque part, je ne pense pas que ce soit la qualification qui soit fondamentalement l'alpha, l'oméga de la réussite scolaire. C'est la compétence qui est recherchée. Et cette compétence, je pense qu'au fil du temps, ce qui pourrait être le motif réel de cette mobilisation, surtout lorsque vous prenez la base jusqu'au sommet, c'est le fait que tous les acteurs ont compris que chacun doit jouer sa partition pour la réussite scolaire. Et par là de la réussite, moi je le mets souvent sous le sceau de la compétence à donner aux enfants. C'est vrai qu'il y a plusieurs astuces. Et je pense qu'au fil des temps, on y met les moyens pour s'y adapter, etc. Et chaque année, les parents ont compris aujourd'hui que lorsqu'on parle des résultats, ils sont également les premiers à être concernés. Lorsqu'on parle des résultats, même si nous prenons à un certain niveau, les résultats n'ont pas été ça, mais les parents doivent se remettre en cause. Parce que l'enseignant, il donne ce qu'il faut, on les a vus, ils ont aujourd'hui la pédagogie, etc. Mais l'assimilation de ce qu'on fait à l'école doit provenir des parents. Et je pense que c'est parce que les parents finissent par comprendre qu'il y a véritablement cette mobilisation. Et que chacun a compris que demain, lorsqu'on dit cet enfant fait la classe de seconde, c'est qu'il a la compétence pour faire la classe de seconde.
Mmh. Et que finalement, et oui, l'année a démarré, l'année scolaire bien sûr, mais quels sont les grands défis à relever?
Alors, on parlait tantôt de compétences. Le vrai défi, d'abord, c'est que l'année aille à terme, qu'il n'y a plus de problème. C'est vrai qu'il y a eu cet accord entre les différents syndicats et le ministère sur 5 ans pour qu'il n'y ait pas de grève et tout ça. Ça ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas de problème. Et donc, je dis la première chose, c'est qu'on arrive à faire en sorte que l'année aille à terme, que les examens soient organisés dans de très bonnes conditions. La seconde chose, c'est qu'il faut que le découpement qui a été annoncé soit bien suivi et qu'il n'y ait pas de situation de crise après. Parce que vous savez, lorsque les enseignants entrent en grève, c'est qu'il y a un blocage. Et là, le découpement qui a été fait subit forcément un coup. Et donc, je dis qu'il faut faire en sorte que tous les acteurs s'y mettent pour que le découpage qui a été annoncé soit suivi. On parle du premier trimestre qui va comporter 16 semaines, le second trimestre également, et le troisième trimestre 11 semaines. Et il faut que cela soit suivi parce que après, ça agisse même sur la rentrée prochaine.
Avec les projets de dépenses qui sont de mise encore.
Tout est mis dans le découpage tout qui a fait. Été proposé. Maintenant, en ce qui concerne la formation même de nos enfants. Alors, en temps, on parlait de d'affectation punitive. Il ne faudrait pas, parce qu'un enseignant a peut-être eu à aller à l'encontre d'une décision ou quelque chose, qu'au cours de l'année, que cet enseignant-là soit affecté ailleurs et qu'on fasse revenir quelqu'un d'autre. Ça met en difficulté d'abord l'enseignement qu'on donne, parce que peut-être celui qui arrive, il est un peu plus chaud, il est un peu plus froid. Ça agit effectivement sur l'enseignement qu'on donne. Et donc, je crois que, comme nous le disons, ceux qui sont affectés dans des écoles, qu'ils finissent l'année là où ils sont affectés. Qu'on ne dise pas que, bon, pour certaines raisons, on les réaffecte ailleurs parce que ça met en difficulté le processus d'enseignement. L'autre chose également, c'est que il est promis quand même qu'on mettra à disposition des élèves certains livres. Mais si ces livres-là n'arrivent pas à temps, ça fait que ça met en difficulté déjà l'enseignant. L'enseignant ne peut pas faire de miracle
s'il n'a pas de matière et de livres pour pouvoir enseigner.
C'est-à-dire des outils nécessaires.
Des outils nécessaires. Il y a également les dotations aux différentes écoles. Parfois, les enseignants font des demandes et ils sont servis des mois plus tard et tout ça. Ça ne permet pas quand même de faire un bon travail. Il faut que tout ça soit bien réglé et que le ministère, hein, je sais qu'il faut des efforts pour que tout le monde puisse avoir à temps les instruments de travail. Mais il faut que ça se fasse dans de très bonnes conditions et que tous les enseignants puissent avoir cela. De l'autre côté, au cours de la réunion où les parents d'élèves, l'association des parents d'élèves a été invitée, je crois qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Par exemple, que les parents arrivent à faire leur travail déjà à la maison pour permettre aux enseignants de continuer l'instruction. Car on dit que c'est la maison qui éduque et l'école instruit. Et donc, il faut que les parents aussi fassent leur travail à la base afin que les enfants puissent suivre l'enseignement qui leur est transmis.
D'accord, il faut que chacun joue sa partition comme cela se doit. C'est très important. Alors, Adam, aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que l'école de la République est en train de former un modèle digne de son nom, enfin, un modèle d'élève digne de son nom?
Ça vient. Vous savez, ce n'est pas de gagner d'avance. Ce n'est pas gagner d'avance. Et je pense que dans ma première prise de parole, je le disais, lorsque vous prenez, en tout cas, tous les défis dont sont confrontés aujourd'hui l'enseignement, et comme a l'habitude de le dire le ministre Kokoroko, l'école de la République a ses faiblesses. Et ses faiblesses, ses forces, mais ses faiblesses sont connues. Et je vais vous donner un exemple. Il y a un ancien ministre de l'enseignement qui a fait longtemps le gouvernement, qui nous disait, lorsque vous prenez les cursus qui sont dédiés à l'enseignement, puis entre-temps, il n'y avait pas, en tout cas, la logique actuelle qui permet donc de former les enseignants, de leur donner, lorsqu'on prend tous les diplômés des filières dédiées à l'enseignement, réunis, actifs, hein, de tous les pogos, ne peut pas combler le gap des effectifs de l'enseignement. Donc, vous convenez avec moi que malgré les efforts qui sont en train d'être consentis par le gouvernement en ce qui concerne l'effectif des enseignants formés et de qualité pour donner une vraie pédagogie à nos enfants, cela reste toujours un défi. Et je pense que c'est de ce point de vue qu'il faut véritablement encourager également les parents qui essaient, surtout lorsque nous prenons nos localités reculées, qui essaient de toujours mobiliser. Et puis, c'est ça. Quelque part, on va nous dire vraiment, le gouvernement mettra à disposition les enseignants lorsque vous commencez, il y a le premier trimestre qui est terminé. Peut-être qu'ils n'ont pas d'enseignants d'allemand, par exemple. C'est vrai qu'ils viendront, on dira, pendant la tout donné, mais en réalité, est-ce que l'assimilation de la matière serait donc effective? Ce n'est pas évident. Donc c'est en cela que les parents prennent sur eux de pouvoir toujours mobiliser les fonds pour que, en attendant que l'État puisse compléter ce gap-là, pour qu'on puisse avoir cet enseignant, qui puisse, tout de moins, même si la qualité n'y est pas, on sait véritablement que c'est déjà un pas pour faire en sorte qu'on n'ait pas ce décalage. Parce qu'aujourd'hui, parce que les élèves dans les villages reculés ne nous l'auraient pas. Ça dit que, il y a un enseignant également qui le disait lors d'une réunion, quelqu'un qui a, par exemple, le CPD et qui vient, lorsque vous comparez, parce qu'il avait, vous avez l'impression de le retourner au CP1. Donc, vous convenez avec moi réellement que, en matière de connaissances, il y a cet écart qu'il y a. Parce que les gens sont à l'OMI, ils ont les moyens, ils essaient d'accompagner, ils ont compris. Ce n'est pas la même chose dans nos villages reculés. Donc c'est en cela que je suis d'accord avec Eric qui disait qu'il faudrait que le matériel didactique soit véritablement au point, parce que nous avons déjà des enseignants qui sont formés à la chose pédagogique. Puis en tout temps, je le disais, on ne peut pas commencer la pédagogie en culpabilisant, en tout cas, la personne, avant même de lui donner cette pédagogie-là. Justement de l'amener au fur et à mesure à comprendre et à avoir cette cumulation de connaissances, ce qu'on n'a pas dans nos villages assez reculés. C'est vrai, l'écart est assez, Et donc, je pense que c'est sur ce point-là que le gouvernement doit faire les efforts. Les efforts sont là parce que lorsque vous prenez, par exemple, on essaie d'accompagner socialement, il y a les cantines scolaires, etc., pour faire en sorte qu'on n'ait non seulement pas des décrochages scolaires, mais également qu'on aide des gens qui s'y adonnent à la chose parce qu'il n'y a pas, ce côté alimentaire qui est un grand souci parce que les parents sont partis au champ, etc. Donc, l'enfant, lorsqu'il sort, de toutes les façons, va aider les parents. Donc, c'est toute une action sociale qu'il faut arriver donc à faire. Donc, cette mobilisation, surtout avec nos communalisations du pays, il est essentiel que ces communalisations puissent accompagner les parents, qu'ils soient partout où ils sont, de comprendre cette logique-là. Parce que aujourd'hui, si nous avons des défis aussi à relever sur un certain nombre d'aspects, tout part de l'éducation. Et lorsqu'on a une même logique de la compréhension de la chose, je pense qu'on arrivera demain à résoudre votre question.
D'accord. Ok. Eric, je posais la question concernant le modèle d'élève que l'école de la République doit aujourd'hui former. Parce que quand on voit notre système éducatif aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plus dans la théorie. De telle enseigne que quand on sort même d'ailleurs de ce système éducatif, on se pose la question de savoir mais qu'est-ce que nous savons faire? Je pense quand même que c'est un défi à relever.
Un grand défi. Je prendrai l'exemple de ce qui se passe ailleurs en disant que, par exemple, un élève qui est formé dans un lycée technique doit forcément être sur le terrain pendant les vacances, soit par un stage, soit par, je ne sais pas, oui, un stage,
oui, un stage
disons,
d'immersion, comme on
d'immersion.
Le dit.
Oui, parce que, comme tu l'as dit, la théorie, c'est ce que nous apprenons. Mais la pratique, on l'apprend où et comment. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut que la réflexion aille à ce niveau-là, même sur dans nos universités. J'ai été étonné d'apprendre qu'un étudiant qui venait de faire sa première année dans une université européenne, on lui a demandé de faire 2 mois de stage. Alors, je me suis demandé, mais en première année, qu'est-ce qu'il a eu à apprendre autant pour aller directement dans le monde du travail? Mais quand cet étudiant-là a été mis dans une entreprise pour son stage, mais ma foi, il a fait des merveilles, au point où le chef d'entreprise s'est posé des questions. Est-ce que lui ne va pas plutôt recevoir que ces jeunes-là, parce qu'il est revenu à Lomé pour faire son stage de 2 mois et dans une entreprise, je parle un peu, c'est dans un domaine technique, hein, carrément, mais l'enfant a fait ses preuves. Donc, je crois que ce qu'il faut aujourd'hui pour notre éducation, c'est bien cela, former les gens, mais leur permettre également d'être en contact, hein, avec le monde du travail. Autrement dit, il y a cette réflexion-là, on l'avait dit, et qu'aujourd'hui, il faut former des gens pour qu'on les mette directement dans des entreprises pour travailler. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on demande beaucoup aux gens de faire des matières techniques et tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de littéraire. Mais il faut que tout ce monde-là arrive à être en contact avec le monde du travail. Parce que sans cela, sans la pratique, vous allez beau avoir vos diplômes, mais être incompétent en matière de travail. Et donc, c'est pour répondre à ta question, pour dire que c'est un véritable souci, mais il faut que les réflexions aillent à ce niveau-là.
D'accord. Adam, nous allons quitter le sujet, mais tu veux placer un mot.
Vous savez, quoi qu'on dise aujourd'hui, et lorsque vous payez les grands pédagogues, ils vous diront qu'il n'y a pas de filière unitive. C'est justement ce compte tenu, en tout cas des capacités d'assimilation, qu'on oriente les élèves ou les étudiants à Donc, en tout cas, faire une filière ou une autre. Mais ce que nous oublions très souvent, et on évite donc de l'évoquer, quelle que soit la qualité d'un enseignant qu'on y met, quel que soit l'État, ce que l'État fera, on oublie de faire intervenir le quotient intellectuel. Vous pouvez tout faire lorsque le quotient intellectuel n'est pas réellement ça. Pour apprêter le mot au ministre Boum qui le disait, de toutes les façons, vous pouvez tout faire, l'enfant n'arrivera pas. Il faut vite déceler cet aspect de la chose et orienter l'enfant sur les aspects sur lesquels il peut faire, notamment, que ce soit l'apprentissage. Donc, essayons également de voir cet aspect-là, que de mettre tout sur la défection, sur les maladresses qu'on peut constater sur ce que l'État donne en matière d'éducation.
Et sur l'apprentissage, l'éducation, c'est un tout. D'accord. Alors, nous allons quitter le sujet. Hein. On va s'intéresser à ce drame qui s'est produit sur la nationale numéro 1. C'est cet accident qui a eu lieu, bien sûr. C'est un accident, d'une violence inouïe. C'est ce que nous dit ce matin le nouveau reporter. Le drame s'est produit dans la nuit, alors du 15 au 16 septembre 2024. Aux environs alors de 23 heures, roulant sur la nationale numéro 1 à la sortie alors de Gléhi, dans la zone d'Adanka, proche d'Atakpamé, un bus de la société alors de transport Soline s'est frontalement heurté à un camion. La violence de la collision met le bus dans un état lamentable. Des blessés et morts sont en risque. Et c'est vrai que pour le moment, nous ne connaissons pas aussi, ou bien il n'y a pas quand même un communiqué officiel du ministère de la Sécurité pour nous situer sur. Déjà les blessés, le nombre de blessés et aussi le nombre de morts. Mais ce qui est sûr, nous avons compris quand même que ça a été dramatique de telle enseigne qu'il y a eu des dizaines de morts et aussi des dizaines de blessés, puisque le bus en question contenait pratiquement plus de 60 personnes. Et Eric, on a compris qu'il y a l'état de la route également qui a favorisé cela, mais au-delà de cela, il y avait également la vitesse, l'excès de vitesse et aussi le manque de vigilance chez les chauffeurs. Je pense quand même que c'est des choses aujourd'hui à éviter parce que nous en parlons toujours dans ces émissions pour sensibiliser.
Pascal, d'abord, une pensée pour ces personnes décédées et à leur famille. Nous n'avons pas encore le bilan de cet accident-là. Néanmoins, disons que de tels drames peuvent être évités. Ce qui se passe souvent sur nos routes, que nous appelons les routes nationales, numéro 1, numéro 2, je ne sais pas, mais c'est dramatique. Les gens roulent en se disant que c'est la nuit, mais je pense que lorsque vous arrivez à une intersection, il faut forcément faire extrêmement attention. Parce que vous n'avez que vos phares pour vous aider à regarder de loin, à voir celui qui arrive de l'autre côté. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lampadaire sur ces routes-là. Ce sont uniquement vos phares qui vous permettent de voir ce qui se passe de l'autre côté. Et telle que la scène a été décrite par notre confrère, évidemment que c'est à une intersection. Le bus qui allait dans un sens et le camion qui tournait. Et donc, si vous arrivez à une intersection et que vous ne ralentissez pas, même si c'est la nuit, il faut toujours le faire. Parce que vous ne savez pas à quel moment quelqu'un peut sortir d'une ruelle ou je ne sais pas, pour vous faucher. Et donc, ce que nous demandons toujours, c'est la vigilance. Parce que, vous savez, cela se passe tout le temps, vous voyez des camions qui n'ont même pas de phare. Le gars peut rouler avec son clientin sur plusieurs kilomètres. Parfois, pour tourner, il n'a pas de clientin, etc. Donc, c'est beaucoup de vigilance au niveau de nos chauffeurs. Et vous savez aussi, la nuit, ces camionneurs-là, pour pouvoir tenir, ils prennent certains produits. Et ça les endorme. Ils dorment carrément au volant. Deux secondes de sommeil, ça crée beaucoup de choses. Donc je pense que ce que nous pourrons demander, c'est juste la vigilance. Et surtout, il faut mettre nos véhicules à point avant de les mettre sur ces grandes routes.
D'accord. Adam, oui, nous demandons la vigilance, mais aussi, quand on parle d'accident, il y a souvent cet élément-là qu'on évoque toujours, c'est-à-dire l'excès de vitesse. On doit quand même faire attention également à cela.
Oui, l'excès de vitesse, oui. Mais vous savez, avant même de revenir sur la question, permettez que nous saluons la mémoire de ceux qui sont tombés. C'est vrai que nous n'avons pas encore l'effectif. Mais ce qui est sûr, on nous a dit, et nous avons vu également les caracas de voitures, le choc a été violent. Et lorsque vous voyez les percussions entre deux, et en tout cas camions, ça a été toujours fatal. On ne va pas remonter l'histoire rappelant donc cet incident reproduit également sur ce tronçon-là, notamment à Takpamé. Il y a de cela, je pense, 4 ans.
Voilà. Vous voulez parler de l'accident de Talo.
Voilà, il y a eu plus de 50
ans. Oui, je me souviens.
Mais, comme je le disais en revenant donc à ces propos, je pense que depuis l'avènement de ces bus-là, de ces compagnies qui sont là, puisque d'habitude pas le procès qu'on nous fait dans nos pays sous-développés, la plupart du temps, c'est que nous ne travaillons pas beaucoup. Nous l'avons constaté qu'avec plusieurs lignes mises en place, surtout lorsque nous prenons par exemple sur ligne qui fait assez, il a pratiquement 7 lignes mises en place. Et on a constaté qu'aujourd'hui, les gens peuvent finir, de travailler. Tu as Lomé, tu finis de travailler à 17h, parce que tu as un autre boulot à faire à Cara, par exemple, le lendemain. Les gens prennent le bus de 18h et vous êtes à Cara entre 1h, 2h du matin. Donc ça vous permet de travailler et de reprendre de revenus. Donc je pense que c'est à saluer. Mais lorsque nous parlons donc de sommeil, alors, moi c'est une compagnie que j'emprunte la plupart du temps. Et ils sont formés. Celui qui doit prendre le bus de 18h...
Tu parlais pas, des camionneurs.
Non, je suis d'accord. N'est pas, en tout cas, un chauffeur qui a déjà fait un trajet. Non, ils sont dédiés spécialement pour 18h. On n'a plus le temps de pouvoir renforcer tout ce qu'il faut pour tenir dans le truc. Mais quoi qu'il en soit, nous savons que l'état de nos rues, lorsque vous prenez ce bus-là, le dépassement. Voilà pourquoi. Puisque le camion, je pense que c'est le bus Soline qui est venu percuter le camion. Ce n'est pas, ça n'a pas été un dérapage. Puisque on a vu d'un camion pour venir percuter. Mais quoi qu'on dise, c'est que moi, je pense que l'atrophie, puisque nous voyons des routes très atrophiées, lorsqu'il y a dépassement, c'est parce que les deux bus, vous dites, mais moins un, c'est-à-dire les deux bus, lorsqu'il y a un dépassement, vous vous posez des questions. Donc, c'est le stress énorme lorsque vous empruntez ces bus-là. Moi, je pense que la grande question, c'est à mettre véritablement sur nos routes qui ne sont pas encore de double pour tenir véritablement ce développement dont nous voulons faire. Mais quoi qu'on dise, nous savons que, quelle que soit, en tout cas, la rigueur que vous mettez dans tout, il y a également ces incidents qui arrivent. On nous a dit que les avions sont le moyen le plus sûr. Mais très souvent, ça arrive.
Donc, il y a souvent aussi des crashs.
Nous devons donc rappeler à cette vigilance-là et au professionnalisme, parce que ces compagnies-là font véritablement du professionnalisme.
D'accord.
Et que je pense que ça continue, mais après la providence également ne doit pas ignorer, ne doit pas être oublié dans ces genres de cas également.
D'accord, merci beaucoup. Ce qu'on ferait, c'est vrai, vous l'avez si bien dit, nous nous inclinons devant la mémoire de ces illustres disparus à travers cet accident et prompte guérison alors à ceux qui sont blessés. Alors, je voudrais qu'on parle un peu politique, on dit quelques mots sur ce sujet avant d'aller à la pause. Eric, l'information, justement, nous l'avons eue hier à travers des médias en ligne. D'après quelques indiscrétions, le Front Touche Pas à ma Constitution aurait décidé d'exclure de ses rangs les partis politiques, a dit du professeur Goguet, Santé du Peuple, de docteur Kouessant et UDS, alors Togo, d'Antoine Folly. Alors, c'est une information que nous avons eue hier. Quand on voit que, mais déjà, le front ne touche pas à ma constitution qui est dans une lutte, dans un combat que nous connaissons tous ensemble. Alors, aujourd'hui, quand on voit que non, il y a ce front qui exclut alors des partis politiques, trois partis politiques de ces rangs, est-ce que ça ne sent pas mauvais déjà?
Non, mais écoutez, je pense que les partis politiques, d'opposition, doivent forcément jouer leur partition. Si ce sont des associations, si ce sont des regroupements d'associations qui vous invitent à venir parler politique, je pense que vous ne travaillez pas. Ça devait être forcément le contraire. C'est-à-dire que ce sont les partis politiques, ceux-là qui sont ainsi constitués pour parler politique, c'est eux qui devaient inviter les associations à venir pour aller au front. Mais les gens vous ont invité, vous êtes arrivés, mais ils sont dans leur rôle, dans leur droit de vous exclure quand ça leur plaît. Et ça, je dis... C'est parce qu'il y a une mauvaise organisation au niveau de ces partis politiques-là. Je le dirai toujours, je crois que la lutte politique, elle est dédiée aux partis politiques. Maintenant, si les associations qui devraient normalement, on parle des associations de la société civile, n'est-ce pas, qui non, logiquement ne devraient pas parler politique, si c'est elle qui vous invite à venir à leur table pour discuter politique, discuter stratégie politique, ça veut dire que ces partis politiques-là ne font pas leur travail. Donc cette exclusion, pour moi, je pense que c'est logique. D'accord. Parce qu'à un certain moment, les gens ont vu qu'ils n'ont plus, ils ne sont plus sur le même diapason et il faut quand même que ceux qui ne pourront plus être dans leur rang quittent.
D'accord, merci beaucoup. Adam, c'est vrai que dans une correspondance adressée aux trois chefs de parti la semaine dernière, le Front pointe alors du doigt plusieurs greffes, une participation irrégulière, voire inexistante alors aux rencontres de réflexion, d'orientation politique et de fonctionnement du Front. C'est le cas alors de Santé du Peuple, des alignements par rapport aux orientations communes alors du mouvement et des prises de position publique en contradiction avec les objectifs du Front, comme l'a fait alors le président du parti UDS Togo. Et une proximité avec le gouvernement dans la mise en place de la 5e République qui interroge sur la cohérence, notamment le voyage en Inde auquel Adi a pris part. Donc on comprend en quelque sorte le motif pour lequel, le Front a exclu ces trois partis.
Non, moi, j'estime que ce sont des prétextes. Vous savez, dès la base, lorsque vous voulez vous mettre ensemble, il faudrait que vous assurez que vous partagez les mêmes idées. Soit vous ayez, en tout cas, des idéologies sur lesquelles, les principes sur lesquels vous devez donc faire fonctionner donc un front. Et je ne crois pas que, puisque ça a été, en tout cas, un appel des ramassis par-ci, par-là, pour faire l'effectif. En faisant l'effectif, on ne parle pas de qualité en réalité, dès le départ. Donc c'est chemin faisant que les gens ont compris réellement que nous devons donc avoir de la qualité. Et dès qu'on a vu véritablement que des gens ne sont pas dans cette même logique que nous, puisque de toutes les façons, le voyage a précédé, ou qu'ils étaient pratiquement dans les encablures de la création du Front. Donc ça vous a dit quelque part que si, tel est que c'est parce qu'on voyage sans véritablement que ce voyage-là puisse affecter en réalité la ligne conductrice donc d'un parti politique. Je ne vois pas en quoi, en réalité, on peut dire, compte tenu du fait que vous avez voyagé avec tel ou tel, voilà pourquoi vous n'êtes
pas... On connaît l'objectif à l'heure de ce voyage, mais comment se fait-il que...
Mais au-delà de tout, moi, je pense que, quoi qu'on dise, ce sont les prétextes, parce qu'on a compris qu'on ne partage, c'est pour arriver à cela, on ne partage pas en réalité.
Mais le fond suit une logique, et quand cette logique n'est pas respectée, allez là, ça veut dire que vous faites des questions.
Oui, justement, parce qu'il ne nous a pas aussi dit que ce front-là, avant donc de l'intégrer,
Vous avez eu donc à signer le fait que vous devez donc respecter une charte de bonne conduite.
Mais quand vous voulez faire partie d'un front, d'une association, vous devez savoir l'idéologie même d'ailleurs aussi de ce front.
Que les responsables de l'association voulaient l'effectif. On ne voulait pas la qualité. Donc, à son temps, on n'avait pas besoin de pouvoir donc vous faire part d'une ligne conductive, d'une idéologie d'un front.
D'accord, ok. Merci beaucoup, Adam. On va revenir.
Oui, mais...
Les partis politiques qui sont allés au front devraient forcément avoir une stratégie politique. Ils ont une idéologie. Mais quand vous allez au front, ça veut dire que vous êtes obligé de suivre la logique du front.
Tout à fait.
Et donc, le front est dans sa logique de vous exclure.
Ah oui, d'accord, merci. Alors, nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs, mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la presse de ce mardi. Maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75 pour s'exprimer aussi hein, sur des sujets débattus ici au Club de la presse. Premier auditeur que nous recevons. Allô.
Bonjour.
Oui, bonjour, Basile.
Bonjour, Pascal.
Oui, Basile, bonjour. Comment tu vas?
Je vais au Roulez. Hein.
D'accord.
Même si d'autres voient toujours le verre entièrement plein, nous on est là, c'est le verre entièrement vide. Pour nous voir ça. Vous avez parlé beaucoup, je viens, tout ça la main. Je ne sais pas si vous avez parlé de la rentrée scolaire.
Eh bien, on a commencé par la rentrée scolaire.
Bon, oui, voilà. Et voilà, le premier Togolais, c'est un parcours du combattant. Le petit programme avec tout ce que nous avons. Et nous inscrivons nos enfants, puisque en Côte d'Ivoire, qui est deux fois notre style, et ils se plaignent même d'ailleurs, les parents. Ah, et ils se plaignent. Mais nous, on fait plus que ça ici. Mais pourquoi? Notre pays va être comme ça. Ceux qui voient toujours le verre entièrement plein. Pourquoi le Togo va être comme ça? Et que quand on vient, on ne peut pas faire. Pourquoi le territoire sache que les gens qui le diablent, encore mieux, ils vivent avec les hommes. Quand ils vont venir, il faut toujours chercher à arrondir les angles. Dans ce petit pays, on ne vit pas. On vit votre, on survit. Qu'est-ce qu'il pense? Je ne sais pas, je ne veux pas appeler le nom de quelqu'un encore et m'ont dit que j'en veux toujours aux gens. Mais tout ça, on est là, on vit la même chose. On vient nous d'avoir votre situation à part. C'est ce que moi je veux dire.
Eh bien, il y a le Basile. Basile.
Oui,
mais je ne sais pas concrètement de quoi vous parlez. C'est-à-dire, prenez un sujet et dites-moi votre avis alors sur ce sujet, c'est-à-dire tel que débattu ici. Tel que vous parlez, sincèrement, je ne maîtrise rien de ce que vous dites.
D'accord.
Allez, merci. Bonne journée. 90 86 35 35 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la presse. Allô.
Oui, allô, Pascal.
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est Dino Coiffeur.
Oui, dis, allez-y.
Bon, je veux parler, vous avez parlé de la sécurité pour la route, non?
Oui.
Bon, ce que je vais dire, mes condoléances à ceux qui sont partis. Moi, ce que je vais dire, vous voyez, la route est tellement écoulée. Moi, quand je vais souvent à ta famille, j'ai peur. Trop. Tout récemment, c'était à 20h, je suis allé. Quand je vais, je prie Dieu. Donc, on a qu'à faire tout revoir. Surtout la route là, dans ta famille. C'est trop. Ça tue trop.
D'accord. Merci beaucoup, Eddie, hein, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, Armand.
Bonjour, le plateau. Bonjour, Pascal.
Comment vous allez?
Je ne pense pas répondre.
D'accord, allez-y.
D'abord, dans un premier temps, j'aimerais m'exprimer sur faire mes condoléances à tous ceux qui sont tombés lors de l'accident d'Atakarien. Il faut dire que les routes sont ce qu'elles sont. Nous le savons très bien. Il va falloir que les trajets de nuit soient vraiment réglementés. C'est-à-dire qu'on constate les plus grandes catastrophes de la route, c'est durant la pleine nuit que cela se passe. Et nous savons, vous avez essayé de développer tout, le manque de sommeil, la prise de produits. Et il va falloir vraiment qu'on puisse mieux regarder ce côté. Revenons à l'école. Et je voudrais dire que c'est vrai que cette année, j'ai constaté que tout le gouvernement s'est levé. Moi-même, je me suis posé la question, je me suis dit pourquoi. Mais nous savons très bien que pour le développement d'un pays, deux secteurs sont primordiaux, il y a l'école et le côté santé. Et on comprend bien que suite même au résultat ni figue ni raisin de l'année passée, le gouvernement a pris sur lui de faire quelques réformes, et on voit aussi que dans le pays qui sont très jeunes, le taux de croissance est très élevé. Donc, les infrastructures, les enseignants et autres, nous sommes toujours sous pression. Il faut vraiment mobiliser les moyens pour que cette rentrée puisse être donnée de bon fruit.
D'accord. Merci beaucoup, Armand, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour. Salut, c'est Monsieur Jean.
Monsieur Jean.
Jean de Noukafou.
Jean de Noukafou.
Je
vais vous
encourager.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean. Mais je voudrais que vous diminuiez un tout petit peu le volume de votre poste à côté de vous.
Ok. Maintenant, ça passe.
Oui, ça va, allez-y.
Ok, j'ai juste une doléance qui ne concerne pas certainement l'émission, mais j'ai envie de parler pour m'exprimer.
Oui, allez-y.
Juste pour quelques temps.
Oui, allez-y.
L'autre fois, au film de la Syrie, aller en Eve, pardon. Le Koukouare. Et il serait ami qui baroubé, et vendé pour une vidéo qui nous suit comme quoi. Pourquoi baroubé de toi dire, pour son atoué, ou qui nous défend, ils seront, c'est comme si baroubé te revoit dans le fraternité. On sort, j'ai l'air de ce retail barou, et s'y a dit. Et j'ai une idée qui te dit même, et un, une fois, un amour de s'y a dit, on va survivre. À ma grande surprise, que nous trouvons tout autour, nous la trouvons sous toi. J'ai dit, on va le faire. Où ? À quel moment ? Le voisin, on est quoi ? Comment va Julia ? C'est vraiment. On sent Julia, va de là-bas, on ramasse. Une idée que tu es venu de coup, n'a pas une autre, tu vois. Elle vivait bien allée. Et que Foutani, n'a pas une autre journée, après une autre journée.
D'accord, merci beaucoup, Jean. Alors,
Pascal, je disais,
oui, Basile,
la vie se nous dit que tu cherches. On est à la rentrée comme ça, il n'y a pas, sur le temps, il n'y a pas, je peux dire combien, 5 parents qui peuvent comme ça aller, inscrire leur enfant sans problème. Le prix même que les directeurs d'école pouvaient insister, ils ne tiennent pas compte de ce que notre pouvoir d'achat est. Tout ce que j'ai développé, vous m'avez dit que vous n'avez pas compris, ouais, je ne suis pas dans votre tête, vous n'êtes pas dans ma tête, donc je suis parfaitement d'accord. Mais quand les gens viennent dire que le verre est toujours plein chez nous, je n'ai même pas moitié plein.
Mais qui l'a dit, Basile, finalement, voilà. c'est en cela qu'on ne se comprend pas. Moi, je voudrais plutôt que, déjà, quand nous avons débattu des sujets ici au Club de la Presse, que quand vous rentrez en ligne, prenez un sujet et donnez-nous votre avis. Analysez ce sujet tel que vous le pensez. C'est de ça qu'il s'agit.
D'accord. OK.
D'accord. Merci beaucoup, Basile. Allô.
Allô, bonjour.
Bonjour, Papa Sardiné.
Oui.
Comment vous allez?
Tout d'abord, mes condoléances à ceux qui sont tombés lors de l'accident là.
Mm.
Bon, avant, on avait promis qu'on devait élargir la voie, la numéro 1 là. Mais cette voie là, si jamais vous rencontrez les grands bus là, lors de leur passage, vraiment, vous allez avoir peur, hein. Et voilà, eux aussi, ils voyagent la nuit. La nuit, là, vraiment, voyant l'état de la voie et leur vitesse, c'est vraiment, si quelque chose se passe, ça devrait être vraiment énorme comme c'est ce qui est passé, monsieur. Bonne journée.
D'accord. Merci beaucoup, Papa Sodinet. Vous êtes le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission de ce mardi. Chers confrères, nous revenons en plateau hein, pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Adam, vous avez écouté les uns les autres se prononcer aussi sur l'actualité telle que nous l'avons débattue ici au Club de la Presse. Votre réaction?
Oui, ce qui m'a en tout cas attiré mon attention, c'est justement la question des écolages au niveau des écoles privées. Je pense que c'est vrai, les écoles privées, ils ont des exigences, et surtout, étant donné que, on l'a toujours dit, l'école est du domaine régalien de l'État. Et justement, c'est par rapport à ça que on a mis véritablement dans des garde-fous. Et ces garde-fous, véritablement également, en tout cas, incitent ou suscitent des augmentations. Ce qui fait que certains parents se trouvent. Être un peu agacé, mais la réponse est toute trouvée. L'État a mis à côté des établissements pratiquement gratuits. Et lorsque vous n'arriverez pas à supporter le coût du privé, je pense que la sagesse et la logique permet à ce qu'on puisse donc aller s'inscrire dans ces établissements-là. C'est vrai qu'on parle des questions des effectifs, etc., où certains établissements à bout de souffle et n'arrive pas véritablement à en tout cas à maintenir tous les élèves qui viennent dans ces établissements. Mais je pense qu'il y a un effort qui est fait et que lorsque vous n'arrivez pas à supporter les coûts du privé, en tout cas orienter ces enfants là vers ces établissements là qui font du bon boulot également. Donc je pense que c'est aussi simple que ça.
D'accord. Je reste avec toi hein, pour ta note de fin d'émission.
Bon, moi, la note que j'ai, c'est justement de féliciter. Je pense qu'on peut.
Et c'est combien d'abord?
On peut donner 8.
8 sur 10.
Oui.
D'accord. À qui?
8 sur 10. Au gouvernement pour cette mobilisation et l'attention pour cette rentrée scolaire. Je pense que les défis que nous avions eu à toucher du doigt pourront être relevés dans les jours à venir.
Oui, je dis au gouvernement.
Pour que l'école de la République soit toujours debout.
D'accord, l'école de la République, une expression très chère au ministre des enseignements primaires et secondaires. Eric?
Oui, je voudrais commencer par mon ami Basile. Basile, tu n'as pas d'ennemi ici. Je pense que tu as de très belles idées à développer, mais il te suffit de dépassionner le débat. Personne ne dit que tu t'en prends à lui. Hein, il faut juste nous dire ce que ton analyse sur les situations. Je pense que tu es un citoyen comme tout autre. Il faut juste parler. Je pense que c'est de cette manière qu'on pourra se comprendre.
Donc, oui, mais en fait, Eric, je ne te coupe pas, mais le souci, c'est que à chaque fois que Basile appelle sur une radio hein, quelconque de la capitale, il y a toujours cette remarque-là qu'on lui fait. Ça dit d'aller à l'essentiel, de dire ce qu'il a dit et de dire même de donner son argument ou son analyse alors sur des sujets.
Oui, c'est.
C'est toujours des remarques, puisque moi je le suis également sur d'autres radios.
Oui, j'avoue qu'il a de très belles idées, mais qu'il dépassionne juste le débat. Qu'il se dise oui, je peux avoir raison, comme je peux avoir aussi tort. Et donc là. C'est facile et c'est tranquille.
D'accord.
Je voudrais quand même dire que ces temps véritablement sont difficiles pour tout le monde. Les parents, quand je parle de la grande mobilisation, il y a aussi les parents qui pendant les vacances, très franchement, n'ont pas dormi. Parce qu'à chaque fois, ils se rappellent que leur progéniture doit commencer par aller à l'école en septembre. Et les parents ont commencé par économiser de côté pour pouvoir acheter les fournitures, pour pouvoir payer la scolarité, etc. Vous savez, nous les parents, nous avons plus de responsabilités dans l'éducation de nos enfants que quiconque. C'est pour ça que je dis un grand merci à tous ceux qui ont pu envoyer leurs enfants à l'école. Parce que si vous n'envoyez pas un enfant à l'école aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de préparer des brigands pour la République. Et je dis merci à tous ces parents-là qui ont pu envoyer leurs enfants à l'école, dont nous-mêmes. Nous aussi, nous avons nos enfants. Mais Dieu seul sait comment nous tous, nous nous battons pour que ces enfants-là puissent aller à l'école. Maintenant, après, on peut toujours continuer par faire des doléances au niveau de l'État pour que ces souffrances-là s'amoindrissent pour nous au fur et à mesure. Parce que l'enfant qu'on envoie à l'école, il doit manger le matin. Et sur tout ça, Adam parlait des cantines scolaires qu'on a mis à disposition de certaines écoles, mais ce n'est pas toutes les écoles. Mais moi, j'aurais préféré qu'on mette cela à disposition de toutes les écoles. Parce que les enfants qui ne mangent pas le matin ne pourront jamais suivre les cours. Parce que quand le ventre commence par se creuser,
il est difficile de réfléchir,
évidemment. Et donc, je crois que nous allons continuer par faire des doléances, mais ce n'est pas en forçant les choses.
D'accord, Eric, je reste avec toi pour aussi ta note de fin d'émission.
Non, je n'ai pas de notes, mais je voudrais quand même dire deux mots sur les exploits sportifs de ce week-end. Il y a l'ASK.
Pas du tennis.
L'ASK d'abord. Oui, l'ASK qui a battu la SEC Mimosa par 2-1 sur ses installations. Je crois que c'est un exploit. Même si le coach Jonas, il dit qu'il est un peu déçu, mais il y a une victoire. Ça, c'est très important. Et il faut renforcer cela quand la SEC va arriver chez nous. Et je demanderai au public de soutenir la SEC pour le battre au retour.
Et maintenant, le tennis.
Le tennis. Le Togo qui a battu la Lettonie.
Ouais.
Et là, nous étions au stade. Et ça, c'était là.
J'ai vu même des personnalités qui ont répondu présent.
Oui, oui, c'est très bien. Par le passé, on n'aurait pas ce public-là.
Tout à fait.
Mais tout le monde s'est mobilisé. Je voudrais dire un grand merci au président Ayalé, le président de la Fédération de tennis, qui fait beaucoup aujourd'hui.
D'accord. Merci.
Et donc, je crois que notre équipe, elle est compétitive.
D'accord.
Et nous irons de l'avant si nous continuons pas la soutenir.
Et nous pensons même d'ailleurs que nous rentrons ainsi dans le cercle des grands et du monde, mais à travers même d'ailleurs le tennis.
Cette coupe merci, Davis.
Davis, voilà. Ouais, ouais. Merci beaucoup, Eric, d'être passé dans cette émission.
C'est
Adam,
bon.
Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir aussi contribué à ce débat avec tes réflexions. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés aussi. Merci à vous pour votre contribution en matière de réflexion à cette émission. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous, d'animer cette émission également avec vous. Merci à Thomas et Teda TV qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Akoucha. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain mercredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. Au revoir.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.